carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Brigitte Terzieff nous a reçus chez elle, à Paris, dans le 15e arrondissement. Elle habite une petite maison et investit un espace qui accueille à la fois un coin salon et puis son atelier. Dans cette pièce, de grandes figures de grès, hautes de plus de 2 mètres, regardent à terre en méditation. Voici l'entretien que nous a accordé Brigitte Terzieff, élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2007. Brigitte Terzieff, vous avez commencé évidemment à l'École des Beaux-Arts avec Couturier, avec Adam. Vous êtes partie en Bosnie travailler le fer, je crois que vous pourrez en parler. Et vous avez travaillé également le béton et de façon abstraite. Alors, est-ce que vous pouvez remettre ça chronologiquement et dans une certaine logique ?
Disons que au départ, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, j'étais un petit peu dans le brouillard parce que c'est vrai que j'ai une tendance à l'expressionnisme très fort et à cette époque-là, j'étais encore très jeune et c'était plutôt dans le misérabilisme du tragique. Et quand je suis partie en l'ex-Yougoslavie, j'étais dans une position où je ne savais plus où aller avec ça, avec cette dramatisation qui devenait un peu trop illustrative peut-être. Et j'ai partagé mon temps entre le théâtre, puisque je connaissais un metteur en scène, et aussi la danse que j'aimais beaucoup, que je partageais déjà aux Beaux-Arts. Je ne savais pas trop d'ailleurs si j'allais devenir chorégraphe ou sculpteur. Et là-bas, c'était un mélange de tout ça. C'était une sorte de laboratoire. J'essayais, je testais des choses sur la scène aussi, dans les ateliers de décoration où on me laissait les portes grandes ouvertes où je pouvais travailler. Et là, effectivement, j'ai travaillé le ciment. Et les figures que je faisais en ciment étaient un peu avec l'esprit du ciment, c'est-à-dire extrêmement concentrées dans la... Peut-être quelque chose d'un peu morbide quand même, parce que les personnages étaient toujours très torturés, très cloutés, dans un état assez difficile. Mais j'étais aussi inspirée par les mises en scène ou les répétitions que je côtoyais en même temps, qui étaient souvent des pièces très dures. Et donc, je faisais une petite exposition dans les salons du théâtre, dans les foyers, qui accompagnaient, si vous voulez, les pièces de théâtre. Bon. Et tout ça a été très, très prenant pour moi, très exaltant. Et quand je suis revenue en France, à peu près 4 ans après, je me suis retrouvée quand même un peu démunie, ne sachant plus dans quelle direction aller. Et là, j'ai commencé un autre matériau, j'ai travaillé le bois. Et le bois, je ne pensais pas faire des figures avec le bois, donc j'ai travaillé d'une manière totalement abstraite. Et pendant 4-5 ans, j'ai travaillé le bois. J'étais peut-être inspirée par Cardenas à l'époque, j'avais vu une très belle exposition de lui avec le bois. Et j'étais complètement influencée, et je faisais des grandes pièces en bois comme ça, des sortes de totems qui me plaisaient beaucoup. Mais au bout d'un moment, je ne sentais plus, j'avais l'impression d'être dans une impasse quand même.
Ça, c'était dans les années 70.
Voilà. À ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai arrêté le bois et je suis revenue à la terre. Mais curieusement, cette période justement d'abstraction m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a permis d'avoir beaucoup plus de liberté sur la figure. Et je suis revenue à la figure humaine avec des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus intégrées dans l'organisme du corps, dans une liberté par rapport à la représentation. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, beaucoup nourrie.
Vous disiez que vous aviez travaillé le ciment. Je crois savoir aussi que vous aviez travaillé le fer. Là-bas. Et vous parliez déjà de ces clous aujourd'hui, qui sont une de vos caractéristiques.
Oui, disons que là-bas, évidemment, je me laissais aller à toutes les formes très prenantes de ce que je voyais. Et je mettais des clous, je mettais de la ferraille, je mettais toutes sortes de choses. Ça aussi, j'ai voulu le remettre aussi dans la terre. Mais à ce moment-là, je travaillais avec des petits formats. Donc, je ne savais pas trop bien comment intégrer tout cela. C'est quand je suis revenue à des grandes figures que j'ai pu à nouveau mettre de la ferraille, de l'acier, parce qu'il y avait la dimension qui s'y prêtait. Dans les petits formats, ça ne donnait pas cette impression forte. Ça perdait son côté expressionniste. C'était beaucoup plus ample pour moi.
Juste un peu plus tôt, vous avez parlé de votre passé de danseuse, de scène, de théâtre. Et on a vraiment l'impression ici, en venant dans votre atelier, qu'effectivement, il y a une mise en scène. Et que je note même qu'il y a une petite scène tout là-haut, avec des rideaux. Vous mettez en scène aussi votre atelier, quelque part ?
Je trouve qu'il s'y prête. Mais ce n'est pas pour représenter des personnages en terre. Hein. Ce qui émane de ces statues me permet à moi de les intégrer dans un espace à eux. Disons qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas chez moi. Vous voyez, c'est ça l'impression que je veux avoir. Et quelquefois, pour ne pas m'habituer, la plupart du temps, je les cache. Je les cache sous des draps pour ne pas m'habituer à eux comme des objets. Il faut qu'il reste des présences fortes, pour moi aussi, pas uniquement pour les autres. Je ne veux pas avoir cette impression de les avoir faits moi-même. C'est ça qui m'aide à continuer.
C'est des personnages debout, hein, qui sont face à vous et qui sont différents de vous, comme vous venez de le dire.
Oui, oui.
Moi, ce qui m'étonne dans ces grands personnages, c'est le fait qu'ils sont aveugles et qu'ils regardent vers le bas.
En fait, ce ne sont pas des personnages. Vous voyez, c'est ça l'idée.
Des figures, alors
Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que présence. Parce que si ce sont des personnages, ce sont des individus. Ils ont un nez, des yeux, tout, et c'est fini. Cette impression énigmatique part. La tête est la chose la plus importante. Et je travaille énormément, j'en casse énormément de têtes, parce que quand elles correspondent à une personnalité, c'est fichu. Il faut qu'elle soit le plus possible transparente, quelque part. Que le regard soit interne, qu'on ne voit rien de l'extérieur. Ils sont toujours cachés. Mais qu'elles cachent ? Tout est là. Comment trouver le moyen de les cacher et que ce soit présent ? C'est tout mon travail, ça.
Quelle est votre inspiration au niveau du métal et des clous ? On a tout de suite des références d'art africain. Est-ce que c'est votre inspiration à vous ?
Oh, c'est vrai que j'ai été très inspirée par l'art africain. Je crois que c'est grâce à l'art africain que je fais de la sculpture. Ça a été un choc extraordinaire, adolescente, de voir la sculpture africaine. J'ai senti quelque chose que je ne ressentais pas forcément avec l'art grec ou l'art de l'Inde. Je ne ressentais pas cette force, cette vitalité qui dépasse l'homme, la nature, l'animal, tout est mélangé. Et ça m'inspirait énormément. C'est sûr que ça ne m'inspirait pas, ça me rentrait dans le ventre. Et ce n'est pas d'ailleurs que la sculpture africaine, c'est beaucoup de choses de l'Afrique. J'avais été très choquée, dans le bon sens du terme, par le film de Jean Rouch sur les maîtres fous. Ça rejoint le théâtre, si vous voulez, là aussi. C'est qu'il y a un transfert des forces positives, négatives, de tout ordre, qui sont intégrées dedans, et qui fait qu'on est complètement habité par une énergie qu'on ne peut même plus contrôler. Elle vous dépasse. J'avais vu ça, je crois, à l'âge de 15 ans, je crois. Mais c'est bien resté pour la vie, cette impression si forte de transposition des énergies.
Vous parlez d'énergie, vous parleriez de spiritualité ?
Je parlerai moins de spiritualité parce que ça a une connotation un peu sectaire, voyez ? Mais bien sûr qu'il y a de la spiritualité dans tout, si on veut le voir.
Plusieurs sculptures portent le nom de guerrier, de bouclier. Pourquoi cette inspiration guerrière ? C'est vrai qu'on a un peu l'impression, j'avais lu ça dans le catalogue qui présentait le fait que vous ayez le prix Bourdelle par Emmanuel Daïdé, et qui parlait de samouraï, où on pense aussi à l'armée du premier empereur de Chine qui a fait cette grande armée. Quel rapport avec vous ?
Un rapport inconscient, probablement. Mais je pense que tout événement, tout ce qui donne envie de créer, est une forme de revendication. C'est un contrôle sur soi. Ce n'est pas une offense. Ce n'est pas un guerrier dans le sens « je veux tuer les gens ». C'est le contraire. C'est se dominer. Arriver, malgré l'agressivité de l'extérieur, à se dominer. Ça rejoint un petit peu toutes les disciplines des arts martiaux, ou tout ce qui émane d'une discipline spirituelle. Hein, ça, c'est vrai. Mais c'est ça qui est derrière. Ce sont des vigiles. Le guerrier, je le disais au départ, il y a quelques années, ce n'est même plus des guerriers. Moi, j'appelle ça des spectres, mais c'est dangereux en même temps. Mais pourtant, ça correspond à ce que je veux dire. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des éléments de l'esprit. Voilà, ce sont des sortes de signes qui viennent de on ne sait où. Mais qui sont des... C'est plus que l'être vivant, c'est autre chose. Mais ça a un rapport avec l'humain, bien sûr.
Et est-ce qu'ils n'ont pas baissé les armes, en fait, ces spectres ?
Jamais. Il ne faut jamais baisser les armes.
Avec nous, pour nous accompagner, Lydia Rambourg, historienne de l'art.
C'est vrai que quand on rentre dans l'atelier de Brigitte, il y a ses présences, et moi je trouve qu'il y a une monumentalité sacrale. Brigitte est un petit peu partagée sur le sens à donner au terme spirituel. Et c'est vrai qu'il faut être très prudent parce que chaque mot a est fort de connotations et transporte aussi son propre imaginaire. Mais moi, si je les vois un peu spirituelles, c'est parce que je dis qu'elles sont habitées. Et donc, ça rejoint ce que Brigitte vient de dire avec sa relation et la forte influence, tout du moins la prégnance qu'a pu avoir l'art africain sur son art. C'est qu'effectivement, ces sculptures sont habitées, elles sont chargées. On parle de sculptures chargées en art africain, en art primitif, en art sacral, enfin en art tribal, quel que soit le terme qu'on leur donne. Elles sont chargées, c'est-à-dire qu'elles sont habitées. Et c'est pour ça que je parle de présence. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Brigitte parle justement de l'espace qui est le leur. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'inconsciemment, on est à la fois impressionné et rassuré. Pour moi, ce sont des sculptures qui sont rassurantes. Moi, je les appelle aussi des veilleurs. Vigie, veilleur, elles sont là, elles sont protectrices. Je ne les vois pas du tout terrifiantes. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, elles ne sont plus guerrières, même si elles ont des attributs belliqueux, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est violent parce qu'il y a cette introduction de fer, de barres en métal, de clous. Donc là aussi, mais c'est en même temps protecteur. Je veux dire qu'elles se protègent, mais elles nous protègent. Il y a comme une espèce de... Vous savez, comme c'est... Alors là aussi, je ne voudrais pas faire trop d'amalgame, mais les Vierges Noires, par exemple, en art roman auvergnat, il y a ces Vierges, elles ne sont pas très sympathiques, on va dire. Quand vous les regardez, elles sont austères, elles sont sévères, on semble même qu'elles nous rejettent, qu'on ne va jamais pouvoir avoir un dialogue avec elles. Et en fait, ce dialogue, il se fait parce que ça remonte très, très loin dans notre inconscient et dans notre origine. C'est pour ça qu'il y a cette énergie primitive qui est celle de toute l'humanité et qui est aussi bien celle qui est dans l'homme, mais qui est aussi celle dans l'animal et dans la nature tout entière. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on a du mal peut-être à expliquer, mais cette énergie profonde qui fait que, pour l'homme qui est peut-être dans l'évolution, dans le règne de la nature le plus évolué puisqu'il a la parole, il a la conscience, le raisonnement, l'homme a cette volonté, cette détermination. On est avec des personnages qui ont la conscience mais qui ont aussi cette inconscience des origines. Moi, ça ne me gêne pas, voyez, vous avez dit qu'il n'y avait pas de visage vraiment déterminé, pas d'identité, on va dire, à ces personnages. Pas d'yeux, pas de nez, qui fassent qu'on puisse leur donner identité. Il ne faudrait pas, parce qu'ils n'en ont pas, ils ont la leur. Et cette identité-là, elle est plus importante que le fait qu'on puisse les nommer. C'est ça, je pense. La véritable identité, ce n'est pas de nommer, mais c'est ce qu'on est et ce qu'on apporte parce que l'on donne, et peut-être par la création. Et la création, ça serait peut-être l'identité absolue, l'identité totale. Donc, ces personnages n'ont pas de visage, moi je leur envoie un, parce qu'il est intérieur, donc ça ne me gêne pas du tout. Alors, au théâtre aussi, il y a cette espèce de métaphore où le personnage, alors là je pense plutôt au théâtre, mais de tous les théâtres finalement, que ce soit les théâtres au Japon, le théâtre shakespearien, le théâtre des tréteaux au Moyen-Âge, où il y a des personnages, c'est vrai, mais ces personnages se fondent dans une sorte de généralité. Ce sont des symboles, ils symbolisent chacun, ou c'est l'amour, ou c'est la mort, ou c'est, vous voyez. Alors après, le nom, il vient après, mais au départ, c'est ça. Alors, le théâtre... Oui, dans la mesure où ils sont là, ils occupent leur place, leur présence fait qu'ils s'accaparent l'espace. J'ai beaucoup aimé lorsque Brigitte dit qu'elle est obligée de les cacher, parce que je pense qu'effectivement, quand elle est dans sa création, elle est avec son face-à-face, avec la matière, et cette matière à laquelle elle va donner une réalité, c'est-à-dire cette gangue, ce limon, qui n'a pas de forme, mais le limon lui-même aussi a sa propre énergie, a sa propre identité. Donc tout ça va advenir par le travail des mains, par l'esprit, parce que le sculpteur, c'est toujours la main et la pensée, et tout ça travaille en même temps, donc c'est assez ambigu, assez complexe. Mais ça émerge, ça naît, et le personnage arrive, mais il n'a peut-être pas obligatoirement un nom, mais il a sa présence, et sa présence, il va la prendre dans l'atelier, Et c'est vrai que ces sculptures, les sculptures de Brigitte Terzieff, quand elles voyagent, c'est-à-dire qu'elles vont dans une exposition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, elles amènent leur propre espace. Et c'est difficile parce que celles qui vont être à côté, si c'est une exposition de groupe, mais ça, je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de sculptures, mais plus que jamais avec les sculptures de Brigitte Terzieff, c'est que la sculpture, elle est dans son espace. Et comme la sculpture, c'est l'espace et c'est ce dialogue avec tout ce qui est autour, je crois que là, on est vraiment avec la démonstration parfaite que la sculpture, elle est dans un environnement. Elle prend vraiment son espace, elle l'apporte avec elle, et on est là, on est installé, on est bien. Et nous, c'est à nous de rentrer un petit peu et d'aller vers cet appel, parce que c'est ça, il y a un appel, elle nous appelle. Et ça, il faut qu'on y réponde. Alors certains vont y répondre, et si on y répond, alors c'est un vertige, parce qu'on rentre dans quelque chose d'extraordinaire. C'est comme une découverte avec un grand texte littéraire, avec une musique. Ça vous habite tout le temps, et on vit avec. Et même si elles ne sont pas avec nous, justement, on les a en nous. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont cette identité propre qui est la leur, c'est qu'elles n'ont pas un nom précis, mais elles sont avec nous, et on les a avec nous, on est bien.
Vous parliez, Lydia Rambourg, de la dimension de ces sculptures, et vous avez bien observé ça lorsque vous avez organisé la biennale à hier, à l'automne 2007. D'ailleurs, la sculpture qui y figurait, moi, je la trouvais très lumineuse. Et c'était la première remarque que je m'étais faite en la voyant. Je me disais, elle est belle et lumineuse. C'est peut-être pas le cas de toutes les sculptures, mais celle-là particulièrement.
C'est vrai que j'aime énormément le blanc en sculpture. Mais c'est toujours très délicat à placer, le blanc. D'abord parce qu'il faut que la matière réponde. Et par exemple, le plâtre, je trouve ça très beau, mais le plâtre ne dure pas. Le plâtre vieillit, s'effrite et perd cette couleur immaculée qu'il y a au départ.
Donc, on voit de la lumière.
Voilà. Donc, il fallait que je trouve avec la terre cette blancheur presque transparente. Et c'est très difficile à réussir. Mais je pense que cette sculpture, justement, qui était à l'exposition d'hier, j'ai trouvé peut-être la patine qui correspondait bien avec l'esprit de la sculpture. Et cette blancheur m'intéresse énormément. Peut-être encore plus que les sombres. Voyez, parce que dans le blanc, il y a quelque chose de plus tragique que dans le noir, que dans les couleurs sombres. C'est presque une transposition des éléments. C'est les Africains, quand ils sont en deuil, se blanchissent. Hein, ça fait réfléchir.
Alors, vos sculptures sont essentiellement monochromes. Quoi qu'il y ait, il y en a quelques-unes qui sont mélangées.
Disons qu'elle, petit à petit, je unifie les couleurs, parce qu'au départ, des fois, je fais des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus dans les rouges ou plus dans les jaunes. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, je laisse la patine se faire et je vais dans le sens de la patine. Disons que j'unifie ce qui accroche le mieux.
Brigitte Terzieff, vous avez fait ce que vous appelez des grandes présences. Effectivement,
Elles sont des dimensions très imposantes. Vous, vous avez fait également récemment des sculptures de petite taille qui font moins d'un mètre, même 50 centimètres. C'est pour exprimer carrément autre chose ou c'est une version réduite ? Comment vous...
Surtout pas réduite. C'est pour ça que je ne fais jamais des statues, les statues que j'ai en grand. Je n'essaie pas de faire des sortes de copies en petit format. Sinon, ça perd absolument son essence. Donc, dans les petits formats, c'est un grand problème pour moi parce que je ne peux pas faire ces statues-là. Donc, je fais un peu des morceaux environnants des grandes statues. C'est-à-dire, je peux faire des crânes, des têtes, des pieds, des bustes, des éléments cachés, comment dire, des armes, si on veut, des symboliques de l'emblème, voyez. Et ça s'arrête là, parce que je ne veux pas toucher au spectre, si je peux m'exprimer comme ça.
Ce sont des échos, des ricochets, en fait.
Oui, c'est des éclats, disons, du monde qui sont déterminés par les grandes tailles, oui. Ben, c'est comme ça, c'est la difficulté que j'ai, moi. C'est mon problème. Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez parler de présence, de spectre, est-ce que ces présences ne sont pas masculines, essentiellement ?
Je crois que oui, qu'elles sont essentiellement viriles. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Je suis une femme, j'aime les hommes. Pour le dire d'une manière très, très simplette. Hein, non, c'est vrai, je pense que je suis beaucoup plus dans l'inspiration masculine, oui.
Oui, et on revient sur votre inspiration de vis-à-vis, d'alter ego, de face-à-face avec vos sculptures.
Oui, probablement, oui, oui. S'il y a un dialogue aussi qui s'installe, oui.
Pas dans la fusion avec vos sculptures.
Non, je ne sais pas. Enfin, c'est difficile, ça, de répondre. Peut-être que oui, au fond. Ouais. Oui.
Vous venez d'entendre Brigitte Terzieff, sculpteur qui nous a reçus chez elle dans son atelier parisien. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger gratuitement, ainsi que toutes les émissions qui figurent sur notre site www.canalacademy.com. Bonne écoute et bonne journée.